Et si on grimpait, marchait, contemplait, escaladait les voies hautes des montagnes à voix haute.
Globule Radio.
George Sand, la Berrichonne, adorait les montagnes. Dans les lettres d'un voyageur, elle raconte, avec humour, son équipée alpine de 1836. Elle, qui écrivait « J'ai la passion du vertige, des hauteurs, des précipices », a gagné cette année-là son procès en séparation. On ne parle pas de divorce à l'époque. Et c'est une grande victoire dans l'histoire des femmes. Elle part donc, l'esprit libre, vers les Alpes. Son périple l'emmène de Genève à Fribourg en passant par Chamonix avant de revenir à Genève. Avec ses lettres d'un voyageur, la montagne entre en littérature. George Sand l'expérimente et peut en rendre compte pour de vrai. Elle écrit au sujet du col de la Forcle. Vers le déclin du jour, nous nous trouvâmes au plus haut col des montagnes et nous fûmes assaillis par un vent glacé qui nous soufflait le grésil au visage. Dans ses lettres, on lit un grand amour de la montagne, mais aussi beaucoup d'humour. Écoutons plutôt son arrivée cocasse Chamonix. Nous voici à Chamonix. La pluie tombe et la nuit s'épaissit. Je descends au hasard à l'Union. Du fond d'une capote anglaise sort la tête blonde d'Arabella. Tandis que je m'élance vers elle, Franz me saute au cou. Putzi fait un cri de surprise. Nous formons un groupe inextricable d'embrassements, tandis que la fille d'auberge, stupéfaite de voir un garçon si crotté et que jusque-là elle avait pris pour un jockey, embrassait une aussi belle dame qu'Arabella, laisse tomber sa chandelle et va répandre dans la maison que le numéro 13 est envahi par une troupe de gens mystérieux, indéfinissables, chevelus comme des sauvages, et où il n'est pas possible de reconnaître les hommes d'avec les femmes, les valets d'avec les maîtres. « Histrion !» dit gravement le chef de cuisine d'un air de mépris. Et nous voilà stigmatisés, montrés au doigt, pris en horreur. Les dames anglaises que nous rencontrons dans les corridors rabattent leurs voiles sur leurs visages pudiques et leurs majestueux époux se concertent pour nous demander pendant le souper une petite représentation de notre savoir-faire, moyennant une collecte raisonnable. C'est ici le lieu de te communiquer la remarque la plus scientifique que j'ai faite dans ma vie. Les insulaires d'Albion apportent avec eux un fluide particulier que j'appellerai le fluide britannique et au milieu duquel ils voyagent, aussi peu accessible à l'atmosphère des régions qu'ils traversent que la souris au centre de la machine pneumatique. Ce n'est pas seulement grâce aux mille précautions dont ils s'environnent qu'ils sont redevables de leur éternelle impassibilité. C'est parce que l'air extérieur n'a pas de prise sur eux. C'est parce qu'ils marchent, boivent, dorment et mangent dans leur fluide, comme dans une cloche de cristal épaisse de 20 pieds et au travers de laquelle ils regardent en pitié les cavaliers que le vent défrise et les piétons dont la neige endommage la chaussure. Je me suis demandé, en regardant attentivement le crâne, la physionomie et l'attitude des 50 Anglais des deux sexes qui chaque soir se renouvelaient autour de chaque table d'hôte de la Suisse, quel pouvait être le but de tant de pèlerinages lointains, périlleux et difficiles. Et je crois avoir fini de la découvrir. Grâce au major que j'ai consulté assidûment sur cette matière. Voici. Pour une Anglaise, le vrai but de la vie est de réussir à traverser les régions les plus élevées et les plus orageuses sans avoir un cheveu dérangé à son chignon. Pour un Anglais, c'est de rentrer dans sa patrie après avoir fait le tour du monde sans avoir sali ses gants ni troué ses bottes. C'est pour cela qu'en se rencontrant le soir dans les auberges, après leurs pénibles excursions, hommes et femmes se mettent sous les armes et se montrent d'un air noble et satisfait dans toute l'imperméabilité majestueuse de leur tenue de touriste. Ce n'est pas leur personne, c'est leur garde-robe qui voyage. Et l'homme n'est que l'occasion du porte-manteau, le véhicule de l'habillement. Je ne serais pas étonnée de voir paraître à Londres des relations de voyage intitulées « promenade d'un chapeau dans les marais pontins, souvenir de l'Helvétie par un collet d'habits, expédition autour du monde par un manteau de caoutchouc.
Vous écoutez Globule Radio, 90.5 FM.
Tous les nuages, tous les ciels gris, tous les naufrages, pas un ne suffit. Tous les visages dans ma galerie, tous les regards dans mon esprit. Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas trop. Trop. Aucun rivage ne m'a réussi, aucune histoire que je n'ai trahi, et je saccage. Je démolis, je tourne les pages, je n'ai rien d'écrit. Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas trop.
Adolphe Pictet, major d'artillerie, personnage connu et respecté à Genève, où George Sand fait sa connaissance, fait partie du voyage. George Sand le raille un peu. Mais tout à coup, je m'aperçus que le major, ennuyé ou révolté de ma mauvaise foi, ne m'écoutait plus. Il avait la tête penchée sur son livre et au milieu des plus belles scènes de la nature, il n'avait d'yeux et de pensée que pour un traité de philosophie qu'il venait de tirer de sa poche. Je me permis de l'enrailler. Taisez-vous, me dit-il, vous traversez la vie en regardant comment les objets sont colorés, découpés et arrangés en apparence. Vous ne savez pas et vous ne désirez savoir la cause de rien. Vous avez bien regardé les montagnes depuis Chamonix jusqu'ici, n'est-ce pas? Vous avez compté les sapins et vous pourriez tracer dans votre cerveau une ligne exacte des déchiquetures de la chaîne. Comme un dessinateur géographe trace de mémoire les sinuosités de la Saône sur un morceau de papier. Pendant ce temps-là, j'ai cherché le principe de l'univers. Et vous l'avez trouvé, Major? Faites-nous en part. Vous êtes un impertinent, dit-il. Je n'ai rien trouvé du tout. Mais j'ai pensé au principe de l'univers et c'est un sujet de réflexion qui vaut bien l'action de regarder en l'air sans penser à rien. Et donnant du talon à sa mule, il nous laissa en arrière, toujours clignotant sur son livre et répétant entre ses dents une phrase qu'il venait de lire et qui, apparemment, ne lui semblait pas claire. L'absolu est identique à lui-même. Quand nous arriverons à Martigny, osais-je dire, sur les 11 heures du soir, il aura peut-être découvert 23 000 manières d'interpréter ces quatre mots. Je comprends. On ne peut pas être de bonne humeur quand on a de pareilles contentions d'esprit.
Adolphe Pictet, dans Une course à Chamonix, raconte lui aussi sa vision de cette bien curieuse caravane aux côtés de la grande George Sand.
À l'aube du jour, le major fut réveillé par la voix de Franz qui criait dans le corridor de l'auberge. « Allons, debout mes amis, le temps est superbe, en route pour la mer de glace. » En moins d'un quart d'heure, la caravane se trouva réunie dans le salon avec armes et bagages. On se hâta d'expédier le déjeuner et on descendit avec les mules qui attendaient patiemment devant l'hôtel. Chacun enfourcha sa bête et la troupe fut bientôt en mouvement. L'aspect en était assurément singulier et pittoresque. Et plus d'un voyageur, plus d'un paysan de Chamonix, même accoutumé cependant aux tournures originales et aux costumes insolites des touristes, s'arrêtèrent avec surprise pour la voir défiler. En tête se voyait l'élégante et gracieuse figure d'Arabella, en costume de voyage, une ombrelle à la main et son voile vert flottant dans la brise matinale. Cette forme svelte et délicate contrastait avec la robuste tournure et la mâle physionomie du guide qui conduisait le mulet. Un peu en arrière, suivaient les deux enfants, montés sur la même bête et poussant des cris joyeux. Venait ensuite Georges, dans le même costume masculin que nous avons décrit au début de cette véridique histoire, avec l'addition seulement d'un grand chapeau de paille sous lequel ses cheveux s'échappaient en masse touffue. Assise à califourchon sur son mulet, Georges avait tiré de sa poche et allumé une cigarette, comme pour se résigner à l'allure monotone et lente de sa monture.
She's my love, she's my holy grail. She the footprints that I trail. Drop of breadcrumbs, here I come. Like cat's eyes leading me home. But I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll. For your lightning light. Give me some of that, give me some of that, that goodness that I see. Give me some of that, that goodness. Watch me, watch me. Amen. Get to you, watch me. When the paper guards on their seats, she brings them all to their knees. My poison, my remedy, I worship at your feet. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll. For your lightning, lightning. Give me some of that, give me some of that, that goodness that I see. Yeah, give me some of that, give me some of that, that goodness. Watch me, watch me. Them out and get to you, watch me.